Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Chapitre 18 et le verset 28. Le thème « Qu'est-ce que la vérité ?» Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi. » Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. » Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Alors ça, c'est quand même une question que nous entendons souvent. Hein. Pour des gens, quelquefois, avec un petit air désabusé ou un petit peu un tantinet moqueur, quand nous disons, bien voilà, nous savons que Jésus est la vérité. On ne dit pas que nous sommes la vérité, que nous avons la vérité à nous, mais on présente les choses en parlant de Jésus, parce que c'est lui qui est réellement la vérité, c'est ce que nous allons voir. Et c'est encore une question d'actualité aujourd'hui, où les hommes voudraient tellement connaître la vérité, mais faut pas que ça la dérange, faut pas que ça les dérange, faut pas que ça les embarrasse. Nous le voyons dans la lecture que nous venons de faire. Jésus se trouve dans les derniers moments de sa vie, et là il est livré à Pilate, la plus haute autorité romaine. Et il n'est pas là pour des raisons secondaires. C'est véritablement parce qu'on sait qu'en venant à Pilate, c'est la plus haute juridiction, et on sait que Pilate a le droit de vie ou de mort. Alors, c'est bien dans cette intention que les Juifs portent contre Jésus l'accusation politique de prétendre à la royauté. Et ça, c'était quand même un chef d'inculpation qui pouvait valoir à Jésus la crucifixion, la mort. Mais nous voyons que les accusateurs de Jésus, eh bien, vont rencontrer en quelque sorte, un certain insuccès, et notamment lorsqu'ils vont plaider la condamnation à mort de Jésus devant le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal religieux juif. Et à ce moment-là, puisque le Sanhédrin ne peut pas se prononcer, alors on va prendre Jésus, on va l'emmener devant Pilate et on va faire la même accusation. Et c'est ainsi que Jésus va être livré à l'autorité romaine, qui est la seule habilité à donner la mort à quelqu'un, à exécuter la peine capitale. Nous l'avons lu ensemble. Nous voyons que quand les détracteurs de Jésus diront ces paroles, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Bien sûr, ils ne pouvaient pas le faire, donc il fallait voir Pilate. Et en remettant cette situation dans la juridiction de Pilate, eh bien, ils étaient tout à fait contents parce qu'ils se disent, nous, on ne peut rien faire, mais en tous les cas, lui, Pilate, va certainement pouvoir nous débarrasser de ce prédicateur-là de Galilée, de cet homme qui, depuis des mois en tous les cas, eh bien, tourne la tête aux gens. Et nous voyons que le chef d'inculpation, c'est tout simplement être roi, Jésus, accuser Jésus d'être le roi. Alors, automatiquement, ça rentrait complètement en conflit avec le César à Rome, et puis, un autre roi qui allait s'élever en concurrence, en quelque sorte. Et vous savez que les rois, ils n'aiment pas tellement la concurrence. Hein. quand ils sont sur le trône, il n'y en a pas deux, il y en a un. Mais c'est comme cela que la question est approchée cet après-midi. La question de Pilate est la suivante. Il nous est dit que Pilate est rentré dans le prétoire et il appela Jésus et lui a dit ces paroles « Es-tu le roi des Juifs ?» D'abord, il voulait vérifier que ce roi-là avait un royaume. Parce qu'un roi qui n'a pas de royaume, ça ne sert pas à grand-chose. Tous les cas, ça ne craint pas grand-chose. Alors il va lui poser la question, es-tu le roi des Juifs? Surtout que lui, il était quand même le procurateur romain qui gérait la province de la Palestine. Et il se dit, si véritablement, eh bien, il y a un soulèvement politique, imaginez-vous. Alors il faut absolument prendre des mesures. Et Jésus va lui répondre, à l'étonnement de Pilate, il va lui dire, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Ce à quoi Pilate va répondre, tu es donc roi. Jésus lui répondit, tu le dis, je suis roi. Nous voyons que Jésus ne va pas faire de mystère. Il va dire, tout simplement, mais moi je suis roi. Mais ce que nous allons voir d'ici quelque temps, c'est que le royaume de Jésus était un autre royaume qui ne rentrait pas en concurrence. Certainement pas, qui n'avait aucune commune mesure, aucune ressemblance avec les royaumes de la terre. Donc, Pilate pouvait dormir tranquille, et puis le César à Rome, il pouvait là, véritablement, tout simplement s'endormir sur ses lauriers. On peut dire ça comme ça, hein. C'est tout à fait approprié. Et nous voyons que Jésus va dire, mais si véritablement j'étais le roi, comme tu le penses, mais moi j'aurais des serviteurs, j'aurais des soldats, j'aurais une armée. Et puis qu'est-ce qu'il ferait? Je ne serais pas tout seul devant toi aujourd'hui. Mais il viendrait combattre pour que je ne sois pas livré entre les mains de mes adversaires et de ceux qui me veulent du mal. Alors Jésus a répondu, tu le dis, je suis roi. Et ça, c'est tout simplement la parole de la vérité. Jésus est roi, et quand Jésus nous dit qu'il est roi, il dit la vérité. C'est une vérité qui normalement ne devrait pas être trop dérangeante dans le cadre où nous l'avons présentée. Mais c'est quand même dérangeant parce que ce n'est pas sur un plan politique ou un plan économique ou un plan, je ne sais quoi, d'hégémonie territoriale. Mais c'est sur un plan moral, un plan spirituel. Parce que le royaume de Jésus, ce que Pilate va apprendre, c'est que ce royaume que Jésus est venu apporter aux hommes, il se fait non pas à l'extérieur, mais il se fait à l'intérieur des cœurs, des consciences et des esprits. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux. Ah ! Parce que ce soit le César à Rome, que ce soit Pilate, eh bien il va falloir passer à la compréhension, voire à l'acceptation de ce royaume-là. Parce que ça ne concerne pas une partie du bas peuple, mais ça concerne tous les hommes, qu'ils soient rois ou qu'ils soient tout simplement de simples citoyens, de simples individus. Alors Jésus vient de confesser cette vérité à la face du monde, dans la personne ou devant la personne de Pilate, qui est le représentant de l'autorité établie. Oui, je suis roi. Moi, je suis le roi. Quand on regarde un petit peu du côté de la Bible, on s'aperçoit que la royauté de Jésus éclate à chaque page. Oui. D'abord, il y a tout un évangile qui est dédié au Christ roi. C'est l'évangile de Matthieu. Quand vous lisez les 28 chapitres, eh bien, Jésus est présenté comme le roi. Le roi du ciel qui vient sur la terre pour régner dans les cœurs et dans les vies. Je pense à l'apôtre Paul qui dira ces paroles, qui écrira ces paroles et qui resteront des paroles marquées à jamais et qui doivent être au fond du cœur des hommes. Paul nous présente Jésus dans 1 Timothée chapitre 6 comme Jésus étant le seul souverain, le roi des rois. Un peu plus loin, il parlera qu'il est le Seigneur des seigneurs. Ah oui? C'est comme ça que la Bible, eh bien, est présentée aux hommes. C'est que Jésus n'est pas n'importe qui. Ouais. Mais un roi qui n'a pas du tout le même visage, le même caractère, la même autorité que les rois de la terre. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est qu'il est au-dessus de tous. Au-dessus des plus grands, des plus hauts, de tous ceux qui sont élevés en dignité. Lorsque nous lisons également l'apôtre Jean, dans son épître, dans sa première épître et au chapitre 5, écoutez cette parole parce qu'elle est très belle. Moi, je l'aime personnellement beaucoup. Il dira ceci, c'est écrit en lettres de feu, il dira, nous savons, ça c'est une conviction de chrétien, nous savons aussi que le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ouais, moi je trouve que cette parole fonde, assoit d'une manière extraordinaire. Ce sont les paroles de Dieu. Ce sont les paroles de la vérité, puisque nous retrouvons tout le sens de ces mots, puisqu'il nous est dit, mais il nous a fait connaître le véritable. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ce n'est pas une royauté usurpée. Ce n'est pas une royauté qui a été volée, là, qui a été conquise au prix du sang, comme souvent les choses se font. Mais il est lui-même le véritable. Et Jean pourra dire, mais nous sommes dans le véritable, en son Fils, tout simplement Jésus-Christ. Et en appuyant encore une dernière fois, pour nous dire, mais c'est lui qui est le véritable, c'est lui qui est le Dieu véritable et la véritable. Et vous avez compris qu'il n'est pas seulement roi, il n'est pas seulement seigneur, mais il est Dieu. Il est Dieu, le Dieu véritable. À côté de tous les faux dieux de la Rome antique, lui, il est le véritable et il est la vie éternelle. Ce qu'aucun roi ne peut donner, il peut donner la vie éventuellement à un roi. Il peut procurer la vie, il peut procurer le bonheur ou le malheur dans la vie. Mais il est question de vie éternelle. Nous sommes dans le véritable. Dans un autre passage de la Bible, il nous est présenté comme le sauveur et le rédempteur. Sauveur, celui qui sauve, et le rédempteur, celui qui rachète. Dans Jean, au chapitre 4, dans cette belle histoire de la Samaritaine que nous connaissons tous, les Samaritains ayant entendu le témoignage de cette femme qui vient de se convertir, qui vient de réaliser devant Jésus qu'elle a besoin d'être sauvée parce qu'elle est perdue, qu'elle a besoin de Dieu dans sa vie, parce que c'est une vie dont c'est une femme dont la vie est misérable. Alors, elle rendra témoignage à ses compatriotes, et à un moment donné, ils diront ceci unanimement, tous ensemble, après être venus entendre Jésus, il dira, mais nous savons qu'il est le sauveur du monde. Ce sont des belles paroles, ce sont des paroles de vérité. Nous les tenons comme des paroles de vérité. Dans le livre des Actes, au chapitre 5, il nous est parlé que c'est Dieu qui a élevé Jésus comme prince et comme sauveur, la royauté et le salut. On comprend que les affirmations de Jésus, lorsque nous regardons et que nous méditons un peu ce texte, ont déclenché la tempête et l'opposition la plus vive. Oui, se déclarant et confirmant qu'il est roi. C'était une véritable imposture. Jésus n'a jamais présenté une menace, hein. Il guérissait les malades, il sauvait les gens, il apportait des paroles de réconfort, il stimulait le courage de tous ceux qui étaient fatigués, chargés, il multipliait ses miracles, mais ce n'était pas une menace, au contraire. Mais justement, c'est parce que sa manière de présenter sa royauté, sa manière de présenter son royaume, les œuvres de son royaume étaient tellement des œuvres d'excellence, étaient tellement des œuvres d'amour, des œuvres de douceur, que ça faisait peur à ceux qui étaient, finalement, avec une conception qui était la conception humaine de tous les temps, qui est encore de vigueur, où il faut forcer un petit peu les gens pour les bousculer, pour leur dire, eh bien, écoutez, c'est comme ça et ça doit marcher comme ça. Alors, de dire qu'il était roi d'un royaume de douceur, d'amour, eh bien, c'était regardé comme un véritable danger et c'était vu comme une imposture. Les Juifs savaient que Jésus était le fils de David. Ça, c'est aussi une vérité. Et c'était Dieu tout simplement sur terre, sous la forme humaine, annonçant eh bien, qu'il allait, ce roi, avoir comme couronne tout simplement des épines sur la tête et comme trône une croix. Et nous voyons que présenter cela, c'était considéré comme un sacrilège. Parce qu'un roi n'est pas comme ça. Un roi, il a tous les honneurs. Un roi, il a toute la place. Il a toutes les possibilités de mettre les hommes à ses pieds. Or, nous voyons que Jésus lui est venu pour dire, eh bien, moi je me mets à vos pieds pour vous servir. Et on le voit dans la belle et touchante image que nous trouvons dans l'évangile de Jean encore, quand il va s'abaisser pour laver les pieds de ses disciples. C'est considéré comme un sacrilège, un roi qui s'abaisse. C'est pas possible. Un roi, un dieu qui s'abaisse, c'est impensable, c'est inacceptable. Parce que c'est un sauveur qui est miséricordieux. Et de parler de miséricorde, dans du temps des Romains, comme aujourd'hui probablement, on ne fait pas miséricorde. On fait appliquer la loi, c'est tout. La miséricorde n'a pas cours, hein. Pourquoi la miséricorde? Et nous voyons que ça s'est considéré comme un scandale pour une mentalité de propre justice et une mentalité légale. Il n'y a que la loi qui marche. Et on le voit bien encore aujourd'hui. Notre monde est régi par la loi. Et nous savons et nous voyons de plus en plus, nous sommes de plus en plus sous une multiplication de lois. Probablement parce que les hommes se comportent de plus en plus mal. Où on veut les contraindre à obéir à des lois dans le respect, naturellement, s'entend dans le respect du bien public, etc. On le comprend, cela, c'est vrai. Mais la miséricorde est absente de tout ça. Parce que si ça fonctionnait dans l'esprit de la grâce et dans l'esprit, tout simplement, de la miséricorde, on aurait un autre monde aujourd'hui, hein. Ça serait certainement différent. Alors, Jésus a été crucifié tout simplement pour avoir et simplement dit la vérité. Et tous ceux qui ont dit la vérité, ils ont tous été éliminés, d'une manière ou d'une autre, à travers tous les temps. Je crois qu'il y avait un chanteur là qui jouait de la guitare qui s'appelait Guy Béard, et il a chanté une chanson sur la vérité, justement. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai qu'elle est très intéressante à écouter, parce qu'il y a quand même des paroles qui sont pertinentes. Alors, lui, Jésus, comme tous les autres, comme ceux des anciens, comme les nouveaux qui viennent dans ce monde pour dire, eh bien, nous voulons véritablement la vérité, on les élimine. Alors Jésus a dit, quelle vérité? Et de quelle manière l'a-t-il dit? Premièrement, il l'a dit aux hommes, sur les hommes eux-mêmes. Il a dit la vérité sur lui. Il a dit la vérité sur Dieu. Et tout ça, ça fait quand même un bel ensemble qui a un petit peu crispé les relations, hein, parce que encore, de dire la vérité sur Dieu, il a eu affaire aux Juifs, en disant, mais tu racontes des histoires, Dieu n'est pas comme ça. Quand il a dit la vérité sur lui, on lui a dit, mais tu te prends pour Dieu. Et puis quand il a dit la vérité sur les hommes, en disant, on n'est pas comme ça, c'est sûr que nous sommes différents. Parce que Jésus leur a dit, écoutez, moi je vais vous dire un mot qui ne va pas vous plaire, mais il faut quand même que vous l'entendiez, et ça sera la vérité, c'est que vous êtes perdus. Et vous êtes perdus à cause de quoi? Vous êtes perdus à cause du mal qui est en vous, à cause de la corruption, à cause du mensonge, à cause de l'égoïsme. Et ça, ils n'ont pas... Une vérité repoussée, une vérité refusée selon la raison qu'en donne Jésus et constatée depuis toujours la chute, et constatée depuis la chute, puisque c'est Jésus qui le dira lui-même. Il parlera de cette situation de l'humanité perdue. Il dira, mais la lumière étant venue dans le monde, lui, en l'occurrence, sa personne, eh bien les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les hommes étaient mauvaises. Il aurait mieux fallu regarder les choses en face et puis de rectifier et de rétablir la situation. Mais comme leurs œuvres étaient mauvaises, eh bien ils se sont dit, on préfère se cacher, rester dans l'ombre et dans le noir, mais on ne veut surtout pas que la vérité soit produite. Donc, en conséquence, préférence pour l'erreur, pour le mensonge et pour le mal. La véritable cause, les paroles, les comportements, les actes répréhensibles, témoigne chez l'homme d'un état, d'une mentalité, d'un fond mauvais, d'un cœur mauvais. Et Jésus leur a dit, voilà, c'est ainsi. Ce n'était pas une invention, c'était une constatation. Une constatation de fait. Ce n'était pas une illusion pour essayer de sensibiliser les hommes et de dire, ah, mais venez à moi, hein, moi je vais faire quelque chose pour vous. Mais de dire, mais il ne peut pas y avoir d'introduction dans le royaume, dans mon royaume, dans le ciel de Dieu, si vous ne réglez pas vos comptes. C'est pas possible. Alors Jésus va s'employer par des paroles, et on les a dans les quatre évangiles. Par les paroles, et les paroles qui suivent, à éclairer la conscience des hommes, et particulièrement de son interlocuteur du moment, qui s'appelle Pilate. Et il lui dira, écoute Pilate, j'ai quelque chose à te dire, je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ça, à vous renverser Pilate sur son trône. Parce que c'était quand même pas, ça devait être un dur, hein, Pilate. Ça devait pas être n'importe qui, hein. Parce que quand on arrivait à cette stature politique, hein, c'est qu'on avait certainement fait des coups de main quelque part, hein. C'était pas possible, hein. C'était pas un tendre ni un doux. Mais quand Jésus lui dit, mais je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, moi, j'imagine ce que Pilate, je connaissais pas, mais que j'imagine Pilate devait dire, mais mon pauvre ami, tu es tombé sur la tête. Moi, qui suis un magistrat de l'Empire, l'Empire le plus fort, le plus grand de tous les temps. Tu me dis ça, que tu es venu rendre témoignage à la vérité? Si quelqu'un peut rendre témoignage à la vérité, c'est bien moi. Moi, Pilate le Grand. Et il ajoutera à Jésus, alors là, ça va le démonter, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Oui. Hein? Jésus passe au-dessus de la loi, là. La loi romaine. La loi est inscrite et décrétée par César. Si tu aimes la vérité, eh bien tu vas écouter ma voix. Et vous savez, je crois que c'est une parole qui est une parole pour les hommes de tous les temps. Pilate hier, aujourd'hui, à travers toutes les époques, quelle affirmation pleine de grandeur et de majesté. C'est la vérité. La parole majestueuse, pourrait-on dire, d'un roi, tout simplement. Beaucoup, et je fais une remarque au passage, beaucoup, avant et après Jésus, ont prétendu l'exclusivité de la vérité et de revendiquer la vérité. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des gens qui viennent vous voir en disant, au nom d'une idéologie politique ou économique, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, ou peut-être religieuse, d'une manière ou d'une autre, en disant, eh bien, vous savez, nous sommes dans la vérité et nous avons la vérité. Il n'y a pas autre chose. Ne regardez pas ailleurs. Ça a toujours été ça. Certains d'authentiques messagers de Dieu l'étaient, et l'étaient affirmativement. D'autres, et les plus nombreux, que l'on appelle des usurpateurs, à travers, je l'ai dit, des sectes, des religions, des philosophies, se sont dit, eh bien, voilà. Mais là, c'est Jésus qui dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Qu'est-ce qui pouvait faire dire à Jésus cette confession? Qu'est-ce qui pouvait lui faire dire ça? Eh bien, dans Jean, chapitre 14, vous connaissez ce passage parce que c'est un des plus connus de la Bible. Jésus dira, et là, c'est au présent, un présent éternel, je dirais, un éternel présent. Il dira, il affirmera, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Jean, tout simplement, dans l'évangile de Jean, mais là c'est un autre Jean qui va parler, qui va affirmer, c'est Jean-Baptiste qui dira, « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Pour tous ceux qui sont en train de chercher la vérité, pour tous ceux qui se questionnent sur la vérité, où est la vérité? Que procure la vérité? Pourquoi la vérité? Eh bien nous avons ces réponses, non pas dans une théologie religieuse que je suis en train d'exposer, mais à travers tous les textes bibliques que je suis en train de citer, qui ont rapport à la vérité, qui convergent vers la vérité pour que nous ayons des convictions, que nous ayons une certitude dans notre cœur, c'est que c'est vrai, dans l'ancienne alliance, la loi a été donnée, qui était une loi de vérité, hein, mais la loi a été donnée par Moïse, mais nous savons qu'aujourd'hui la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parce que pour rentrer dans la grâce, il faut accepter la vérité. Il n'y a pas d'autre chemin. Je reprends les paroles de Jésus. Je suis né dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. La première chose qui apparaît, c'est la naissance du Christ qui est criante de vérité. Bientôt, nous allons arriver d'ici un mois et demi à Noël. Alors, tradition et tout ce que vous voudrez, ça ne nous concerne pas. Mais toujours est-il que la venue du Christ rédempteur était pleine d'une vérité, criante de vérité. Qu'y a-t-il de plus vrai que l'accomplissement des prophéties messianiques? Puisque ça s'accomplit. Ça faisait des siècles et des siècles où les prophètes de l'ancienne alliance, des grands hommes, avaient dit qu'il viendrait un Messie, qu'il viendrait un envoyé de Dieu, qu'il viendrait un sauveur, que le Rédempteur ferait son apparition pour sauver les hommes. Et quand c'est venu, c'était pourtant la vérité. Et pourtant, il n'y avait pas grand monde qui se pressait autour de la crèche et autour de Jésus. Pas grand monde. Dans Luc, au chapitre 1er, nous avons cette parole d'un homme qui s'appelle Zacharie, qui, me semble-t-il, est le père de Jean-Baptiste. Et il dira dans cette prière de louange, « Béni soit le Seigneur de ce qu'il nous a visité, de ce qu'il a visité son peuple et nous a suscité un puissant sauveur. » Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses prophètes de tous les temps. Une chose qui est dite et qui ne s'accomplit pas, comment on appellerait ça? C'est pas la vérité, c'est un mensonge, c'est un raté. On peut dire qu'il y a eu un raté quelque part. Mais une parole qui a traversé les siècles et qui des siècles après s'accomplit, c'est la vérité. On ne peut pas dire autrement naturellement. Dans Luc chapitre 2, je poursuis, c'est là la voix d'un ange. C'est un ange qui parle pour nous attester la vérité. Il dit, mais c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Et ce sauveur, c'est le Christ, il est le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. L'ange a dit ça aux anges. Les anges sont allés, qu'est-ce qu'ils ont vu exactement? Et ils ont dit, ben, ils nous ont dit la vérité. Et là, ce n'était pas les paroles d'un homme, c'était les paroles de messagers angéliques, de messagers célestes. c'est la vérité. Quelle précision de vérité. Dans le détail, emmailloté, un petit garçon dans une crèche, et ceci, et cela. Tous les détails y étaient. Hein. Ça, c'est la vérité de Dieu. Ouais. Dieu n'oublie aucune de ses paroles. Et on pouvait dire, au moment où Jésus est venu, pour ceux qui avaient la perspicacité et l'honnêteté de le reconnaître, mais les prophètes ont donc dit la vérité. Ben oui, puisque ça s'est fait. Jésus, nous pourrions peut-être le présenter de cette manière, était la vérité prédite. Le deuxième point, on ne peut parler de naissance sans évoquer la vie. Ben oui, c'est logique, hein. On est pour vivre. La vérité est venue de Jésus, ou la vérité sur la venue de Jésus, précisément dans le monde, a été d'y apporter la vie. Quelle vie ? La vie de Dieu aux hommes, qui nous est présentée à travers l'Écriture comme un don. C'est un cadeau. Dieu n'a jamais monnayé, il n'a jamais commercé, il n'a jamais trafiqué. Hein ? Déjà, le don de la création, c'est une grâce. Alors, celle qui est d'une autre dimension, de l'éternité, c'est encore autre chose. C'est le don de la vie physique, mais il y a plus grand encore celui de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est vrai. La vie éternelle, c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui se disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vie éternelle? Qu'est-ce que ça veut dire dans un monde si rationnel et si matérialiste? La vérité de la vie a été âprement contestée car Jésus est venu dire aux hommes qu'ils étaient morts. Et là, ça leur a pas fait plaisir. Vous dites à quelqu'un, t'es mort. Il va peut-être bondir. Hein. Je vais te montrer, moi, que je suis mort. Ah oui, parce que c'est ça la vérité. Pour mettre en relief la vraie vie, fallait bien qu'il y ait son opposé. Et l'opposé de la vie, c'est la mort. Et vous dites aux gens, vous êtes morts, vous avez besoin de vie éternelle, vous avez besoin de vous repentir, vous avez besoin de Jésus. Ben, fallait leur dire qu'ils étaient morts. Et dire à des vivants, enfin un prétendu vivant, qu'ils sont morts, ça fait du bruit. Hein. Parce que ça, c'était une cruelle vérité. Et quelle désillusion pour la propre justice, pour l'honorabilité, et puis pour la respectabilité, pour l'autosuffisance, de dire, mais alors, qu'est-ce que je suis? Ben oui, mais Dieu nous répond, tu es rien. Mais tu peux devenir quelqu'un, parce que ta vie que tu as aujourd'hui n'est qu'une illusion, ce n'est rien. C'est toi qui t'es bâti pierre après pierre. Eh bien là, quelque part, un édifice, mais ce n'est pas le vrai, ce n'est pas la vérité. Alors, la conséquence de notre état de pécheur, Jésus nous en parle, dans Romains chapitre 6, enfin inspiré par Jésus, mais dit par Paul, puisque les hommes sont morts, eh bien on va voir la raison, parce que le salaire du péché, eh bien, c'est précisément la mort. Et que c'est un état universel, nous dit Romains dans chapitre 3. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. C'est ça la vérité. Et faites entendre ça aux gens, ben vous allez voir. Et la sanction, dans Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous comprenez que les gens ne pouvaient plus entendre des choses pareilles et que Pilate, lui qui était dans une sphère qui était vraiment la sphère des grands et des puissants, il se disait « mais on est dans du délire là, parce que je suis pas comme ça ». Et pourtant, c'était un pauvre homme, Pilate, qui avait besoin véritablement de Jésus. Et Jésus, en lui parlant comme ça, lui tendait encore la main, non pas pour le juger, mais pour le sauver. « Pilate, tu as besoin de salut comme les autres ». Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Pilate, il devait s'en moquer quelque peu, hein. Et pourtant, il avait un immense besoin d'entendre ça. C'était la vérité. Parce que ce sont des vérités qui nous dérangent. Et si la vérité ne dérangeait pas, la vérité de Christ ne dérangeait pas, je peux vous dire qu'il y aurait, 10, 20, 30 églises de peut-être 500 ou 600 membres ici à Saint-Nazaire. Hein. Mais c'est que ça dérange. C'est ça le problème. Regardez le fils prodigue. Il était vivant ou il était mort avant? Le père va confesser ceci. Il dira, mais mon fils que voici qui était mort, eh bien, est revenu à la vie. Il était perdu, mais maintenant il est sauvé. Parce que sans Dieu, c'est la mort. Et ça, ça ne fait pas plaisir à entendre. Pilate, ça le dérangeait, mais énormément de savoir et d'entendre ces choses. C'était certainement la première fois qu'il avait un homme à juger de cette façon-là, de cette teneur, de cette dimension-là. Jamais il n'a entendu ça, Pilate. L'annonce de la vérité réaliste de la mort de la mort spirituelle, a pour but non de juger, je le rappelle, mais de sauver l'homme. Autre raison de la venue de Jésus, si sauver est la véritable mission du Christ, pourquoi ce refus obstiné de la vie ? Comprenez ce que ça veut dire ? Si, je répète, si véritablement sauver est la véritable mission du Christ, s'il est venu pour cela, pour sauver, alors pourquoi les hommes qui entendent cet appel, cette invitation, cette sollicitation, cette supplication, pourquoi ce refus obstiné de croire ? Puisque, la logique, puisque c'est la vérité, c'est de croire à cette vérité. Or, les gens ne veulent pas croire. Ils se blindent. Et c'est ce que Jésus dira, toujours encore, dans l'évangile de Jean qui est... C'est ce que Jésus dira dans l'évangile de Jean, parce que c'est vraiment plein de belles choses cet évangile. Il dira, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est désespérant. Les Juifs ne voulaient pas entendre parler de Jésus. Alors où est donc la vérité ? Eh bien, elle se heurte à une chose qui est terrible. Elle bute sur un mur, sur une muraille, sur une forteresse, sur une nouvelle Jéricho. C'est l'incrédulité. C'est ça, le problème de l'homme. Problème numéro un qui tue l'homme, qui l'envoie faire finalement, eh bien là, dans sa destinée éternelle, mais misérable et de perdition, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité, certes. Mais cette incrédulité, elle verrouille la porte de la vérité. Elle ne laisse pas passer la vérité. C'est étanche. Et c'est ça le grand problème. Écoutons encore l'invitation à la repentance qui nous est donnée par Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Jésus dit, je vous le dis, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas qui je suis. En d'autres termes, le Sauveur, le véritable, la vie éternelle. Vous mourrez dans vos péchés. Alors, Jésus a dit la vérité sur la nécessité absolue d'un changement radical de notre vie morale, de nos pensées, ce que l'on appelle la nouvelle naissance. On est d'accord. Et il en parlera à un homme qui s'appelle Nicodème. Et à Nicodème, il lui fera comprendre, entendre ces paroles que vous connaissez bien. Il lui dira, Nicodème, tu es venu me voir. Tu t'es caché pour me voir, mais moi j'aurais quand même que tu repartes. Avec la plus belle et la plus grande de toutes les nouvelles, qui est la vérité. En vérité, en vérité, écoute Nicodème, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est la vérité. Toute la différence est de consentir et d'engager notre volonté à changer de vie. Si on veut, c'est possible. Si on refuse, ben on ne verra rien, naturellement. Et pourquoi Pilate et les Juifs auraient-ils cru à ces vérités ? Pourquoi changer ? Alors, les Juifs, vous allez me dire, ils avaient besoin de changer. Hein. Ils avaient besoin de changer parce qu'ils n'étaient pas très heureux sous l'occupation romaine. Il aurait pu aspirer peut-être à un changement. Mais il voulait un changement extérieur, mais pas un changement intérieur. Pilate, pourquoi changer ? Il avait une place, mais alors extraordinaire. Il était en quelque sorte le roi de toute la région, hein, avec un mandat impérial. Pourquoi changer quand on est au sommet, hein ? On n'a pas forcément envie de descendre. Mais il aurait mieux valu pour lui qu'il consente à écouter Jésus et d'être sauvé que d'avoir sa place et puis de finir perdu. Hein. On peut le comprendre. « Je suis venu dans le monde, dit Jésus à Pilate, pour, non pour juger, mais pour sauver. » Je voudrais que ça rentre dans nos cœurs. « Pour, non pour juger, mais pour sauver, pour donner la vie. » Écoutez, l'autre version du salaire du péché, c'est la mort. Et vous connaissez la suite, la version positive. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ça, c'est la vérité. C'est un cadeau royal. Dans Jean, il est dit ceci, que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils, dans la foi, dans notre foi que nous mettons, notre confiance que nous mettons dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tous ceux qui prennent cette parole en l'instant où nous sommes et qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais ils ont la vie éternelle maintenant. Parce que vous avez cru à quoi ? Vous avez cru à la vérité. Et c'est la vérité qui vous sauve. C'est la vérité qui nous sauve. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, dit Jésus. Dire que l'homme, sans Dieu, est mort. Sans la foi, est mort. C'est pourquoi Jésus ajoutera qu'il est la vérité, qu'il est la résurrection et la vie. Ouais. parce qu'il faut peut-être passer par la mort, mais la mort n'est pas la mort. Ce n'est pas la vraie mort, ça c'est la vérité. C'est simplement un passage qui va nous donner de rejaillir dans une autre dimension qui n'a rien à voir avec cette vie, avec cette terre. Dire que le monde est mauvais, vous savez l'image du semeur là, où la graine tombe dans différents terrains, ça c'est la vérité. Dire aux hommes qu'ils ont besoin de guérison, il y a suffisamment de malades sur la terre pour pouvoir, finalement nous avons un champ d'action terrible, extraordinaire. Dire aux hommes qu'ils sont aveugles, Jésus nous dit « je suis la lumière », alors croyez en moi. Un aveugle, il cherche la lumière, naturellement. Dire qu'ils ont besoin d'être enseignés dans le bien et de nourriture solide, Jésus nous dit « je suis le pain de vie », c'est la vérité. Dire à tous ceux qui ont soif de plénitude, « eh bien je suis la source d'eau vive ». Dire aux égarés de l'existence, « je suis le bon berger », c'est la vérité. Dire aux hommes qu'ils sont hors du plan de Dieu, Jésus nous dit « mais je suis la porte ». Vous êtes en dehors, eh bien rentrez, prenez la porte, enfin dans le bon sens. Naturellement. Hein. Dire à ceux qui tournent le dos au bonheur, eh bien je suis le chemin. Dire à ceux qui sont dans l'erreur d'un système ou des systèmes religieux humains, mais je suis la vérité. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher autre part. Et Jésus pourra dire, mais moi je vous propose ma personne, je vous propose ma parole, je vous propose mon esprit, je vous offre ma vie. Je vous la présente sous la forme de ma voix. Et c'est pourquoi on appelle la Bible la parole de Christ, la parole de Dieu. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. C'est pourquoi même les détracteurs de Jésus un jour diront « jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Ça, c'est un des plus bels hommages qui est rendu par les adversaires de Jésus à Jésus lui-même. « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Alors, je termine tout simplement. Quiconque est de la vérité écoute ma voix, dit Jésus. Prétendre aimer la vérité, parce que la question elle est là. Croire, aimer. Quiconque prétend aimer la vérité, ça veut dire, et ça se traduit par aimer Jésus, sa personne et dans tout ce qu'il a dit. Je ne peux pas faire une part pour la personne de Christ et rejeter ce qu'il dit. Je ne peux pas mettre de côté ce qu'il dit et le prendre pour moi, et rejeter sa personne, puisque c'est à travers sa personne que je suis sauvé, à travers le sacrifice qu'il a accompli. La voix du Christ, sa parole, l'évangile, ses enseignements reposent d'abord sur l'écoute. Écoutez. Prêtez attention et obéir, mettre en pratique ce que Jésus dira à ses contemporains. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis ? Vous croyez que c'est vrai ou vous croyez que c'est faux? Si vous croyez que c'est faux, je comprends que vous ne croyez pas et que vous ne l'engagez pas et que vous n'obéissez pas. Mais si vous croyez, un tant soit peu, que je vous ai dit la vérité, mais pourquoi vous l'acceptez pas cette vérité? C'est pas la peine de dire Seigneur, Seigneur, ça ne sert à rien. Alors ne dites pas Seigneur, Seigneur, vous dites rien. Et vous ne parlez plus de moi. Mais si vous dites autant soit peu Seigneur, Seigneur, eh bien faites ce que je vous dis. Parce que la réalisation de la volonté de Dieu, elle passe par votre foi qui va se traduire en obéissance. Alors Pilate a dit, et je termine, qu'est-ce que la vérité? Alors vous êtes au courant maintenant, hein, ça va mieux, mais je pense que tous vous qui êtes là cet après-midi, vous êtes bien au courant, mais toujours est-il qu'il faut que ça soit dit, et que ça soit redit, et que ça soit porté. Et nous sommes tous des porteurs, non pas de notre parole à nous, mais de la parole que Jésus a dite, je suis la vérité. Voilà. Alors Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Peut-être pour nous dire que je ne sais pas ce que Pilate en a fait, mais je crois qu'il n'en a pas fait grand-chose. Mais pour nous dire que c'était vrai pour Pilate, mais c'est vrai pour les hommes d'hier, c'est vrai pour les hommes d'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas pire que celui qui ne veut ni entendre, ni comprendre, et ni croire à la vérité. Il n'y a pas pire. Et je crois que Dieu nous a créés pour que nous puissions, au fond de notre cœur, accepter la parole de Dieu à travers la bouche de Jésus comme étant la vérité. Et il y a une très belle parole qui nous est laissée par Paul dans Thessaloniciens. Il nous est parlé que Dieu envoie un esprit de vérité pour ceux qui aiment la vérité. Alors que Dieu nous donne sa grâce pour ceux qui aiment la vérité. Donne-moi d'aimer la vérité, Seigneur. Envoie-moi un esprit de vérité. Envoie-moi ton esprit de vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier quelques instants maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton amour, ta fidélité. Nous voulons simplement, Père éternel, venir vers toi maintenant et te demander, Seigneur, de te révéler, de te manifester dans nos cœurs. Nous avons entendu ta parole et nous pouvons dire, mais Seigneur, c'est la vérité. Oui, Seigneur, en vérité, tu nous dis les paroles, Seigneur, qui viennent du ciel, les paroles qui viennent de Dieu. Alors nous voulons tout simplement maintenant te demander dans ta grâce, eh bien, de te révéler, de te manifester au nom de Jésus, dans le cœur de chacun, de chacune. Puis moi, je veux te demander, Seigneur, que ce message, Père éternel, qui peut être porté par nos bouches, qui peut être porté certainement par nos vies, par notre témoignage d'une façon ou d'une autre, eh bien, je te demande, Seigneur, que ce message, quel que soit, Père éternel, le moyen, Seigneur, de parcourir la terre, de visiter les vies, les cœurs, eh bien, Seigneur, que ce message fasse du bien et que nous puissions nous ranger, Seigneur, à celui qui nous a dit être la vérité. Alors, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Merci parce que nous savons que la vérité, Seigneur, nous affranchit. La vérité nous rend libres. La vérité nous donne la vie. La vérité nous donne la perspective, eh bien, de l'éternité, de ton pardon, de notre réhabilitation, Seigneur, comme créature sauvée, rachetée. Merci parce que tout cela, ça porte un nom, c'est la vérité. La vérité de Dieu en Jésus-Christ. Amen.